Celles et ceux qui s'intéressent à l'art performance, comment vous sentez-vous lorsque vous assistez à une œuvre du genre? Fébrile, un peu stressé, excité, sensible à l'énergie de l'espace? Si vous êtes comme moi, vous avez sûrement aussi vraiment peur que l'artiste vous interpelle à un moment donné pour participer à son œuvre. Puis, je pense que c'est assez légitime, hein? Contrairement aux toiles ou aux sculptures en trois dimensions, qui dialoguent de manière pas mal plus subtile avec le public, la discipline de la performance donne lieu à un art vivant où l'audience influe énormément sur le résultat, dans la plupart des cas. Ce dialogue de corps à corps m'impressionne autant qu'il m'effraie et m'émeut. La réception d'une œuvre de performance est souvent vraiment percutante. Je m'explique. J'ai jamais assisté à la performance de Carol Lee Schneemann qui, en 1975, a sorti tout un ruban de texte de son vagin sur lequel étaient transcrits les mots d'un critique qui jugeait son travail controversé. Je l'ai jamais vu, là, mais cette action hautement symbolique et, on va le dire, subversive, m'a marquée et fait désormais partie de mes référents lorsque mon regard se concentre sur des représentations artistiques, notamment en ce qui a trait au corps, au féminisme, au pouvoir de la nudité, au regard masculin puis à sa reprise par le féminin. Un autre exemple, Annie Baillargeon, que vous pouvez entendre dans le précédent épisode qui portait sur l'autoreprésentation, a mené durant plusieurs années le projet Square Femininity, dans lequel elle consomme à outrance des objets de skincare et déforme son image d'elle-même pour dénoncer l'obsession de notre société pour la perfection et la jeunesse. Je repense très souvent à sa démarche en tant que femme qui se fait harceler de publicité et d'influenceuses, influenceurs qui veulent absolument que je garde ma peau douce, que j'évite les rides et que j'ai jamais de points noirs. En fait, je reçois la performance comme la création d'un espace indicible. C'est un lieu liminal dans lequel ni la réalité ni la fiction ne semblent exister, ou plutôt ne font qu'un. Les sujets sociaux déteignent bien souvent sur les gestes performatifs, mais ces derniers engendrent également des images qui nous sortent du quotidien, qui forcent nos réflexes et nos patterns à capituler et poussent nos imaginaires à croître. L'engagement de l'artiste qui performe et celui des spectatrices et spectateurs convergent au final et en émergent des actions, plus ou moins minimalistes ou explicites, qui sont, au même titre qu'un coup de pinceau ou qu'une sculpture, de l'art. Malgré leur dimension scénique et même parfois absurde, on ne se le cachera pas. Dans cet épisode, l'artiste Laurence Baudouin-Morin nous parle des sujets qui animent la plupart de ses œuvres performatives. Le risque, le rassemblement, mais aussi les terrains vagues. Elle nous offre une immersion sur le tournage de son court-métrage Acronie, qui a eu lieu dans une immense bâtisse vide, où le poids d'une histoire qui lui échappe se mêle à son potentiel imaginaire lorsqu'elle expérimentait le lieu pour la première fois et l'activait à travers ses gestes. Laurence présente d'ailleurs ce film dans le cadre du Festival international du film sur l'art de Montréal, au FIFA expérimental, lors de la séance Migration, qui aura lieu à Concordia, le vendredi 15 mars, dès 17h30. Pour en savoir plus, un lien se trouve dans la description de l'épisode. Mais en premier lieu, j'ai posé quelques questions à Hélène Doyon, afin qu'elle nous suggère plusieurs pistes de compréhension des propositions performatives. Elle est artiste en performance, c'est la moitié du duo Doyon-Demers, mais elle est aussi professeure à l'UQAM depuis plusieurs années. Je suis Claire-Marine Béat, et vous écoutez Sous la fibre, le podcast qui donne une voix à l'art visuel.
Je suis Hélène Doyon, je suis professeure à l'École des arts visuels et médiatiques à l'UQAM. Je suis aussi la directrice du doctorat en études et pratiques des arts. Je suis artiste depuis 1987 avec Jean-Pierre Demers sous le nom de Doyon Demers. Ah, présidente de Viva Art Action, qui est le festival de performance de Montréal. D'abord, j'ai enseigné les arts médiatiques à l'Université Laval. Et puis, quand je suis rentrée à l'UQAM, en fait, j'étais la première professeure engagée en performance à l'UQAM pour vraiment organiser la performance à l'UQAM, c'est moi. Il y avait un cours qui existait un peu, mais que je trouvais mal défini, ce qui fait que je l'ai complètement redéfini pour lui donner le plus d'ouverture possible. Donc, j'ai enseigné assez longtemps la performance. Ces dernières années, j'enseigne moins la performance parce que j'enseigne au deuxième et troisième cycle, mais je garde un séminaire qui s'appelle « Art et vie confondue » et qui est très assimilé à la pratique performative aussi.
C'est quoi la performance? Est-ce que c'est un art de la scène? Est-ce que c'est un art visuel? Est-ce qu'on se situe à mi-chemin? Est-ce qu'il y a plusieurs définitions?
D'abord, je répondrai pas sur la question « est-ce que c'est ça ou ça », mais plutôt comment ça se définit dans sa largesse. C'est-à-dire qu'on fait une différence entre la performance, qui serait une performance de scène avec ou sans scène, mais qui se déroule devant un public convié, invité. Ça, ce serait vraiment pour moi la performance au sens strict. Alors que les pratiques performatives ou leur performance, leur action, souvent, on va vouloir inclure quelque chose de beaucoup plus large, tout ce qui s'inscrit dans cet art-là. Et ça inclut donc les pratiques publiques. Donc, beaucoup de pratiques, pas toutes, évidemment, mais beaucoup de pratiques dans l'espace public sont des pratiques performatives. Alors, je vais au dictionnaire, en fait, de la langue française. L'Office québécois de la langue française, c'est très instructif parce que c'est l'endroit où on trouve la meilleure définition de la performance. Donc, en général, mode d'expression artistique consistant à produire des gestes, des actes et dont l'événement ou l'action et son déroulement temporel constituent l'œuvre. Donc là, ils vont donner comme synonyme performance, art action, art performatif. Avec une note. Par sa nature même, l'art performance est un art éphémère qui laisse peu d'objets derrière lui, si ce n'est parfois quelques traces sur support audio, photo ou vidéo. La performance, la manœuvre, la performance collective, la poésie action, la situation construite, l'art corporel, par exemple, sont associés à la performance. Et je suis certaine qu'on pourrait en ajouter plein d'autres. Il y a eu les happenings, les anthropomorphismes, les rituels, on parle d'art vivant beaucoup. Il y a eu des courants comme l'actionnisme, l'action painting, Fluxus, Gutai chez les Japonais. Donc, il y a eu beaucoup d'appellations. Puis, il continue encore à se créer des appellations. Parce qu'à la limite, pas tout le monde, mais beaucoup de gens qui abordent ce... J'aime pas dire discipline, parce que c'est carrément une antidiscipline au départ. Ça ne voulait pas être une discipline, mais on va dire ce champ disciplinaire-là appelle toujours à de nouvelles définitions. Les gens cherchent le plus souvent, ce qui n'est pas toujours le cas maintenant, parce qu'on est entré justement dans une institutionnalisation de la pratique, si on parle justement qu'il y a des cours qui se donnent, que les musées vont peut-être avoir envie d'en collectionner, etc. Donc, qui s'étant institutionnalisé, il y a des gens pour qui ils font de la performance sans se poser toutes ces questions-là, et puis, ils la regardent peut-être plus comme un spectacle. Mais pour beaucoup de personnes qui sont engagées dans une pratique performative ou dans la performance, il y a toujours la question de remettre en question le cadre, de remettre en question le marché, de remettre en question la matérialité de l'œuvre. Donc, c'est généralement un acte politique aussi, ce qui fait que les termes vont avoir tendance à changer à mesure que le temps passe en fonction des grands mouvements de pensée, je dirais.
Mais je comprends que c'est très vaste, que ça a beaucoup évolué, puis selon les courants, les climats socio-économiques aussi, ça a pu prendre différentes formes. Tu le disais, il y a des personnes qui ont des pratiques un petit peu plus engagées, d'autres qui vont davantage être dans quelque chose de plus scénique, peut-être de plus spectacle. Je sais que toi, tu as quand même ciblé 4 ingrédients de la performance qui peuvent nous donner certains indicateurs pour lire une œuvre en tant que performance. Est-ce que tu veux nous en parler?
Je veux quand même dire que ces 4 ingrédients-là, ils font probablement partie de tout, toute la vie puis de toutes les pratiques. Le corps, le temps, l'espace et le public. Et chacun est mis dans la balance chez un performeur pour réfléchir ce qu'il va faire. Donc, le corps, évidemment, on pense à notre propre corps, mais on pense aussi à la présence. Et puis, la présence va aussi insinuer l'absence. Donc, parfois, le corps physique est pas là, mais il y a une performance quand même. Le temps, on peut jouer sur le temps parfois en ayant des bandes son qui nous accompagnent tout le long. Donc, ça va donner la durée et le rythme de la performance. Et d'autres fois, on peut décider qu'on va travailler sur un temps très, très long, même si c'est pas de courte durée, mais peut-être au ralenti. Et parfois, on va travailler justement sur la longue durée. On peut faire des performances de 13 heures, de 24 heures, de 2 jours, de 10 jours. Et puis, on a fait une performance, nous, qui durait même pas une minute. L'espace, c'est aussi quelque chose qu'on va questionner. Évidemment, si on accepte de le faire sur une scène qui nous est donnée, on le questionne moins, mais encore, on peut décider si on déplace le public, on le met autour de nous, on se déplace dans l'espace au complet du théâtre ou de la salle, ou on peut aussi le regarder en se demandant est-ce que je fais ça à l'intérieur, est-ce que je fais ça à l'extérieur, est-ce que je fais ça dans un lieu public qui n'est pas un théâtre, est-ce que je fais ça? Donc tous les lieux peuvent recevoir une performance. Et le public, alors pour le public, on dit avec, par, pour, c'est habituel. Mais on peut faire aussi sans public. Et puis encore là, ben, on va se questionner sur comment on fait pour faire une performance, pour que ce soit une performance et que ce soit sans public. C'est sûr que la caméra a joué un grand rôle là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne la fait pas devant un public, mais éventuellement, elle va rejoindre un public. Même si on parle de performance de scène, très, très souvent, on va prendre pour acquis que le public, il n'est pas là seulement comme présence, mais il est là aussi comme participant. Même si on ne va pas aller le chercher directement pour faire quelque chose, mais on va y aller plus souvent. Effectivement, ça fait partie de la convention qu'il y aura éventuellement participation.
C'est ce qui suscite parfois des inquiétudes, en tout cas chez moi.
Oui, mais c'est ça. Je suis la première à aller me mettre en arrière puis me sauver si une attention.
La conservation, c'est vraiment une des singularités de la performance. Il y a la question de comment on conserve une œuvre qui, bien souvent, est éphémère et pas toujours documentée. Ça, c'est une première particularité. Puis la deuxième particularité que moi, je vois, c'est vraiment que la performance, elle a eu l'avantage de libérer l'art visuel de son carcan matériel.
Tout à fait.
Encadré, balisé, puis de redéfinir l'art plutôt comme un vaste ensemble, parfois d'objets, mais aussi parfois de gestes, de dialogues, en notant qu'il y a une intention artistique.
Oui.
Est-ce qu'il y a eu un contexte qui a permis l'avènement de la performance, notamment au Québec, où est-ce qu'on s'est tourné vers ce genre de pratique, de discipline irrévérencieuse?
Ah, l'aspect irrévérencieux, c'est sûr que je pense que les années 60-70, qui étaient déjà des années très militantes, à bien des niveaux, là, ce que on pense culturel, mais aussi révolution sexuelle, etc. Donc ça, c'est sûr que ça a joué. Mais sur le plan de l'histoire de la performance, les années 20, c'était après la Première Guerre, les actionnistes viennois, c'était après la Deuxième Guerre. Donc, il y a beaucoup de ce type de libération qui est arrivé après les guerres. Tout ça, donc, ça a suivi ces années-là. Les gens de la danse sont aussi arrivés à la performance, mais parce qu'ils ont voulu décomposer la danse. Donc, c'était comme un peu une autre tradition. Donc, je reviens au Québec. Pour moi, j'ai eu l'impression que le fait qu'il y ait eu beaucoup de travail de ce type-là, de performance et dans l'espace public, c'est parce qu'il n'y avait pas de marché. Donc, les artistes, il n'y avait aucune raison d'essayer de rejoindre un marché qui n'existe pas. Il y a toujours des artistes pareils dans la société. Ça permettait d'avoir des actions qui devaient essayer d'aller rejoindre le monde d'une autre façon. Quand t'as pas vraiment d'espace d'exposition. Après qu'il y a eu les centres d'artistes, tout ça, c'est devenu moins important, mais à cette époque-là, c'était très important. Tu sais, on commence avec le 20e siècle, mais je suis certaine qu'il y en a eu avant, la performance. Ben, des fois, on entend raconter que des gens faisaient telle chose qui était un peu étrange. Donc, c'était déjà ça, tu sais, ça fait partie de l'humain, je pense, ça fait partie de la création tout court. D'agir dans l'espace de façon réelle, en fait. Parce que c'est ça, faire de la performance, si on compare au théâtre. C'est que le théâtre, on joue, alors qu'en performance, on ne joue pas. En principe. Parce que toutes les doxas, tout ce que je pourrais énoncer comme une vérité sur la performance, on peut la revirer comme une crêpe, puis il y a quelqu'un qui va le faire, puis ça peut marcher.
C'est vraiment comme un vaste champ des possibles. Tantôt, tu disais que tu voulais pas définir la performance comme
à la fois ça et à la fois ça, mais tu me parlais de danseurs, danseuses qui ont souhaité déconstruire leur discipline, de est-ce qu'on joue pas comme au théâtre. Fait qu'il y a quand même, j'ai l'impression, une convergence.
C'était beaucoup, les premières définitions étaient, quand je dis des anti-définitions, c'est que c'était aussi, on la définissait par la négative. C'est-à-dire, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas de la danse, ce n'est pas des arts visuels, ce n'est pas de la musique. Ça, c'est ce que j'espère qui va rester malgré l'idée d'une certaine institutionnalisation. Moi, j'ai rien contre que les choses évoluent puis que ça prenne d'autres tournants, mais je suis pas obligée de participer à ça. Tu sais, je veux dire, il reste toujours la possibilité de faire de la performance comme on veut la faire. Je pense que Viva participe beaucoup à ça. On laisse place à beaucoup de types de pratiques, justement, à une grande ouverture des approches pour montrer la vivacité encore de cette pratique.
C'est une œuvre vivante. Alors, comment on la conserve? Il y en a plusieurs qui vont choisir de la documenter ou en tout cas d'en faire une œuvre interdisciplinaire à travers la vidéo, à travers l'audio, peut-être même à travers la peinture, le corps qui peut laisser une trace concrète de son passage. Est-ce qu'il y a certaines œuvres qu'on va tout simplement accepter de les vivre et c'est tout?
Dans notre cas, oui. On ne travaille pas très fort sur la documentation. Il y en a souvent. On l'utilise pas, nous. Souvent, moi, c'est un jugement que je porte souvent sur des œuvres que je vois documentées en photo. Une excellente performance, on va avoir une photographie décevante souvent. Puis une performance totalement insignifiante au moment où je l'ai vue va avoir une superbe photo. C'est tellement pas le rapport avec l'expérience, cette photo, c'est une autre affaire. Donc, pour moi, c'est plus comme une photo souvenir. Mais ça, c'est moi. Il y en a qui travaillent très, très fort et justement qui créent une œuvre à partir de leur performance. Ben ça, c'est une autre approche. Et c'est à chacun de décider, en fait, pourquoi et qu'est-ce qu'ils visent avec ce type de pratique-là. Il y a des gens qui font beaucoup de vidéos performances, mais qui ne feraient jamais une performance devant des gens.
Donc, si je comprends bien, ça peut devenir en même temps leur canal privilégié. Mais c'est différent de la documentation. La documentation, il faut voir ça un petit peu comme un fragment d'une œuvre qui a été vécue en réalité. Donc forcément, ça va être un infime pourcentage de ce que c'est.
Exact.
Plonge encore plus creux dans l'éphémérité et la puissance de la performance artistique avec Laurence Beaudoin-Morin.
Laurence, est-ce que tu veux me parler un petit peu de ta rencontre avec l'art?
Ma rencontre avec l'art remonte à très jeune, où est-ce que j'ai toujours peigné dans les peintures de mon oncle. Mon oncle est un grand peintre, Michel Beaudoin. Donc, c'est avec lui que j'ai appris à regarder les paysages, regarder les objets, regarder la forme d'à côté. Donc, on avait des moments où est-ce qu'on se rassemblait, puis il amenait la peinture, il amenait l'aquarelle ou des crayons de dessin. Puis, il nous faisait dessiner qu'est-ce qu'on voyait. Donc, c'est depuis tout jeune que je baigne là-dedans. Puis justement, ben, j'ai commencé ma carrière artistique par la pratique de la peinture. J'ai rencontré la performance quand j'ai rencontré l'artiste Jannick Byrne, qui est devenue une très bonne amie aussi. Elle pratiquait la performance, j'avais jamais entendu parler de ça avant. Puis ça m'a vraiment happée. J'étais vraiment en peinture, où est-ce que je rentrais à Concordia l'année suivante. Puis j'ai vu à travers elle cette pratique-là que finalement qui est très multiple. Finalement, la manière qu'elle l'exerçait, ça m'a beaucoup parlé. Je me suis mise graduellement à en faire à mon tour. Puis je suis rentrée à l'université avec mes pinceaux, avec ma peinture, mais aussi avec mon corps, puis où est-ce que j'ai activé les peintures différemment. J'avais cette nouvelle forme de leur action. Je réussissais à travers l'action, à travers mon corps, à travers les espaces, les matériaux, les objets, faire une poursuite de ma peinture.
J'imagine que ta définition et ton rapport à la performance, il a dû beaucoup changer depuis ce temps-là, mais aujourd'hui, ce serait quoi ta définition de la performance?
C'est de l'art visuel ou est-ce que c'est un art de présence qui tient en compte le moment dans lequel il se définit. Donc, ça va être en lien avec les objets, avec l'espace, l'architecture, les personnes qui sont présentes. Puis, ça va être finalement des actions qui vont être posées. C'est assez régulièrement avec nos corps, mais pas seulement. Donc, c'est très vaste, la définition de la performance.
Et toi, qu'est-ce qui te séduit particulièrement dans cette discipline? T'es au début, t'as commencé avec la peinture. Je comprends qu'il y a comme une nouvelle dimension qui s'ouvre à travers le corps, les gestes. Mais qu'est-ce qui vraiment t'a interpellé au point d'en faire ta discipline dominante?
J'ai été très interpellée par la performance de voir que j'avais une incidence sur le moment présent. Le moment présent avait une incidence sur moi. Puis cette forme de création-là qui est partagée, finalement, m'intéressait aussi d'être devant le public, puis que ce public-là, les personnes qui sont présentes, puissent influer aussi, de voir qu'on construit le moment ensemble, qu'on construit la pièce, l'œuvre ensemble. Versus la peinture, où est-ce que je suis seule dans mon atelier, par exemple, c'est cette création-là commune qui m'a pris de l'avant dans ma pratique.
Est-ce qu'il y a eu un moment, un facteur déclencheur où est-ce que tu as essayé, je ne sais pas moi, une première performance, puis il s'est passé quelque chose en toi, t'as vraiment le déclic peut-être?
Ben, je me souviens de ma première performance, justement, c'était avec Yannick, où est-ce qu'on avait été dans le métro, Berry-UQAM, puis j'avais fait une performance de longue durée. C'est quand même pas facile comme condition que je m'étais donnée. De répéter pendant une heure, je crois, c'était assez long. Un mouvement dans l'espace public où est-ce que les gens me traversaient, les gens passaient autour de moi, mais dans toute leur réflexion, dans leur engagement, dans leur mouvement. Puis, portaient pas plus ou moins attention à moi, mais finalement, il y en a qui me remarquaient, puis il y en a qui ont interagi avec moi, mais c'est un souvenir qui est très fort parce que c'est un moment où est-ce que je me donnais un public qui était non averti, où est-ce que j'allais inscrire une action dans l'espace public. C'était assez audacieux, je dirais, quand je repense aujourd'hui avec toute ma pratique. Yannick était là avec sa caméra. C'était dans un but de faire une performance vidéo. Mais ça a beaucoup influencé mon rapport à la pratique par la suite. J'en ai fait dans différents contextes, évidemment. J'en ai fait dans un intérieur sécuritaire ou dans l'espace public régulièrement aussi, devant des publics avertis dans des galeries. C'est toujours très différent de la manière que ça va influencer nos actions, où est-ce qu'on est situé, évidemment.
Mais tu parles justement de public non averti. C'est vrai que quand on est dans l'espace public, on est confronté à toutes sortes de personnes qui sont dans la frénésie de leur vie quotidienne. Qu'on soit initié ou pas à l'art visuel, à la performance, ce serait quoi, toi, tes conseils pour appréhender et vivre une œuvre de performance en tant que spectatrice, spectateur? Dans quelles conditions il faut se mettre pour recevoir ce matériel-là?
Pour apprécier une œuvre de performance, il faut arriver avec de la confiance en soi. La confiance en soi parce que finalement, tout le monde arrive avec son bagage différent, son historique différent, ses références, puis toutes les activités, les moments qu'ils et elles ont traversés avant font partie de la manière qu'ils vont recevoir l'œuvre. Donc, c'est des œuvres qui sont visuelles, qui ne veulent pas nécessairement dire quelque chose non plus. Il ne faut pas croire que l'artiste cherche à nous communiquer un message, cherche à nous communiquer une intention précise, donc d'y aller avec de l'ouverture, puis de voir qu'est-ce que moi je vois, puis de faire ses propres associations, faire sa propre narrative. Parfois, il y a des œuvres qui vont être plus didactiques, évidemment, mais ça arrive bien souvent que c'est des actions qui vont être posées, des images qui vont être proposées, qui vont laisser les publics responsables, dans la responsabilité de faire leur propre interprétation.
C'est intéressant, cette question du message. Toi, t'as plutôt envie de suggérer au public de venir avec une ouverture à s'immerger au sein d'images, d'atmosphères qui vont être créées par les artistes de performance?
Oui, exactement. J'ai débuté en performance avec une pratique militante. Donc, j'avais vraiment des messages très clairs, très importants que je cherchais à communiquer. Mais finalement, je me rendais compte souvent qu'à la fin de mes performances, ben, le public n'avait pas nécessairement capté l'exactitude de ce que je cherchais à transmettre. Puis ça me froissait, ça m'impatientait. Puis je me dis, ben voyons, qu'est-ce qui est pas clair? Dans ma tête, c'est tellement précis. Mais finalement, je me suis rendu compte que ce qui était intéressant, c'est la manière que les publics avaient, elles eux-mêmes, fait leur propre narrative, puis fait leur propre histoire, puis de cette manière-là, ont contribué à la discussion. Puis de voir chaque performance comme une discussion avec le public, ça l'a beaucoup fait évoluer ma pensée puis ma pratique, de voir le dialogue qui est possible avec les membres du public, avec leur réflexion puis avec leur manière d'interpréter ces images-là. Oui, évidemment que j'ai une motivation militante qui est toujours latente, mais c'est pas de manière aussi précise puis aussi définie que je vais chercher à transmettre ou à créer une image. Je cherche plus à transmettre un message, mais de transmettre une ambiance, une attitude, puis de voir comment que le public interagit puis modifie. Cette modification-là est importante aussi dans mon travail.
Moi, je comprends. C'est vrai que souvent, la performance, ça peut être associé beaucoup à des symboles sociopolitiques. Il y a eu beaucoup de personnes mises en marge qui l'ont utilisé pour revendiquer certaines luttes, certains de leurs droits. Mais il faut pas oublier aussi l'aspect visuel, justement, tu le rappelles, puis toutes les images que vous créez qui sont pas nécessairement un message politique ou militant. Ces deux facettes-là peuvent coexister, j'imagine, dans la discipline.
Oui.
Dans ton travail, il est beaucoup question de générer des occasions de reconnexion du collectif, de considérer l'action comme un outil de rassemblement. Tu l'expliquais avec ta toute première performance, ton travail est vraiment axé sur le pouvoir de l'interactivité avec le groupe. Comment et pourquoi tu désires interagir avec le public, avec les autres?
C'est une très grosse question. Je suis aussi formatrice de performance, donc j'ai souvent l'occasion de donner des workshops intensifs d'une fin de semaine de 3 jours. Là, je m'en vais à Berlin demain pour aller donner une semaine intensive. Et ce qui m'intéresse, c'est de donner la place à tout le monde, de s'approprier chaque exercice, de s'approprier ces moments-là ensemble, de s'approprier l'exercice, la performance, de se poser des questions, de repousser nos limites. Donc, mon workshop, c'est par rapport au risque en performance. Le risque en performance, c'est assez vaste, c'est multiple. C'est de reconnaître que chaque personne a ses propres risques, ses propres limites, et de voir de quelle manière que le groupe peut permettre aussi de prendre des risques. Donc, c'est vraiment à travers cette motivation-là que je vais chercher à rassembler les gens. Dans ma pratique personnelle, j'ai souvent des moments où est-ce que je vais demander la participation du public, des volontaires sur le coup, ou je vais avoir préparé déjà des participations avec des personnes que je sais qui vont être présentes. Je cherche à créer des expériences sociales où est-ce que les personnes vont se réfléchir en groupe. À l'automne dernier, j'étais invitée au lieu à Québec par Sylvine Gérard, qui était le commissaire d'une soirée qui s'appelle Risque calculé. Donc, Sylvine Gérard avait invité différents artistes. Nous avons tous et toutes des pratiques de la performance où est-ce qu'on aborde le risque différemment. Dans ma performance, j'ai invité 5 volontaires à me joindre. J'avais construit 2 murets de briques dans la galerie qui n'avaient pas de mortier. Donc, j'ai demandé à 2 personnes de s'installer de chaque côté pour tenir le mur en place. Puis au centre, il y avait des bandes élastiques où est-ce qu'il y avait un slingshot, finalement, un slingshot géant qui était construit. Donc, j'ai demandé à la 5e personne de prendre ce slingshot-là et de tirer des vêtements. Puis moi, j'étais de l'autre côté du slingshot, puis je m'habillais avec tous ces vêtements-là. Donc là, ça a été vraiment une ambiance festive qui a été mise en place quand Jordan Jack, qui s'appelle, pouvait réussir à tirer les vêtements. C'était pas évident. Le public s'exclamait, ça encourageait. C'était vraiment dans la gaieté qu'on a amorcé cette performance-là. Puis moi, je m'habillais, mais je superposais toutes les couches de vêtements. Puis jusqu'à ce que Jordan arrive à piger dans le sac une brique. Il arrive au moment de confrontation où est-ce qu'il y a une brique. Puis là, il se pose la question s'il va tirer cette brique-là, parce que moi, je suis dans le chemin, finalement. Je suis dans le chemin, puis j'accumule les vêtements. Le public est devenu silencieux, puis là, ça a pris une autre gravité. Jordan va tirer la brique. Je l'ai esquivé. Mais je me suis couchée au sol, puis j'ai demandé à ce qu'on me fasse la bascule. Puis 2 personnes supplémentaires sont venues, puis m'ont fait la bascule dans le mur. les gens qui tenaient le muret ont vu leur responsabilité différemment. Le but, c'était de les faire s'effondrer avec mon corps qui était ballotté d'un bord à l'autre. Puis le heurte dans les briques allait les faire s'effondrer. Ben, finalement, les gens, sur le coup, se sont concertés de lâcher le mur. Ils étaient pas capables de soutenir cette image-là. Ils étaient pas capables de me voir mon corps se fracasser, même si j'avais différentes épaisseurs de vêtements qui me protégeaient. C'est trop confrontant comme image qui était créée. Donc, les gens qui tenaient les murs les ont lâchés, puis ça a fait un bruit foudroyant dans la galerie. C'est ce qui m'intéresse, c'est de provoquer ces situations de tension-là, où est-ce que les gens, sur le coup, ben, vont être nécessairement impliqués. Puis Ézéchiel, qui a lâché le muret, ben, m'a partagé par la suite qu'il s'est senti autant responsable à aller s'asseoir dans le public qu'en tenant le muret. Donc, c'est vraiment intéressant parce que finalement, c'est comme si tout le monde était responsable de cette image-là. Puis c'est ce que je cherche à produire. Le public n'est pas passif en regardant mes performances. C'est nécessairement des images qui vont être impliquantes puis responsabilisantes.
Les mots-clés que je perçois, c'est vraiment l'implication active du public. C'est ça qui te plaît. C'est ça qui vient créer, en fait, toute la magie, la puissance du moment. Ce que je comprends, c'est que t'aimes cette spontanéité, tu parlais de la notion du risque, et je te cite, tu considères le risque comme un objet, un sujet et un moyen d'action. Donc, c'est sûr que finalement, cette œuvre-là, elle est très vivante et elle t'échappe souvent, ou en tout cas, tu peux en baliser les règles, mais tu peux pas contrôler la totalité de l'œuvre. C'est intéressant, c'est presque sociologique comme rapport à son art, et c'est tellement... C'est plus rare, en tout cas pour les artistes dans le champ des arts visuels, de percevoir la réaction d'une œuvre, à part peut-être un vernissage ou dans des activités de médiation, mais toi, t'es engagée autant que le public.
Oui, exactement. Je souhaite, j'arrive à m'imaginer certaines réactions possibles, mais finalement, ça va être le public qui va faire vivre l'œuvre. Je suis pas la seule artiste dans ce cas-ci. Je cherche à partager le risque et à le prendre avec les autres.
Est-ce qu'il y a eu d'autres moments où est-ce que le public t'a surpris, étonné, confronté?
Oui, j'ai été surprise lorsque j'avais fait une performance où est-ce que j'étais attachée par la taille à des poutres. Puis là, j'étais vraiment en équilibre, puis j'étais retenue par ces cordes-là. Il y avait une scie qui se passait d'une personne à l'autre dans le public. Il y avait une personne de mèche. La première personne arrivait avec une scie, venait scier une corde, puis ensuite la passait à une autre personne dans le public au hasard. Une à une, les cordes se sont faites couper. Mais à chaque fois, ben, c'est la tension qui augmente parce que finalement, c'est la promesse de mon corps qui va tomber sur le sol, évidemment, parce que c'est tout ce qui me retient. Je suis en équilibre complet. Mais jusqu'à temps d'arriver à la dernière corde, jusqu'à ce que le geste soit accompli jusqu'au bout, puis que la corde soit rompue, puis que je m'effondre au sol. Ben ça a été une finalité qui m'a vraiment surpris parce que j'aurais pas cru que le public m'aurait laissé tomber. J'ai su prévenir le choc sur ma tête, mais quand même, il y avait tellement de possibilités de fin. Mais ça va parce que ça m'a plu finalement qu'on vive ça ensemble, puis que ça a ouvert une discussion, puis qu'on réfléchisse ensemble sur les possibilités autres que de me laisser complètement tomber.
C'est intéressant. Est-ce que tu t'attendais à un résultat ou est-ce que le monde agirait de manière peut-être plus réservée, timide, qui aurait pas l'audace d'aller couper un à un la corde?
J'aurais cru qu'il y aurait quand même une organisation spontanée de me rattraper ou finalement qu'il y ait une discussion. Je savais pas à quoi m'attendre. C'était un sol de béton. Je cherche à provoquer ces zones de tension-là. Je me sacrifie, j'aime avoir un corps sacrificiel dans mes performances. Puis justement, quand mon corps était balancé sur un muret à l'autre de briques, ben ça me faisait peur. J'ai passé plusieurs temps à réfléchir à cette action-là, puis ça me faisait peur que les briques me tombent toutes dans le visage, par exemple. Mais j'ai envie de provoquer ces situations-là, puis je trouve que ça en vaut la peine. Je réfléchis beaucoup à mes performances avant quand même, donc je suis jamais en danger non plus, là. Ne vous en faites pas. le risque, pour moi, c'est une manière de parler de nos actions. C'est une manière de nommer ce qu'on fait, ce qu'on entreprend dans le monde, finalement. Puis c'est de se donner de la force, puis c'est se donner une sorte de mérite de poser cette action-là, de la nommer comme un risque. Il y a le risque visuel qui est assez stéréotypé, disons, qui est assez commun, compréhensible du public, du feu, des lames, du sang, de la tension, un corps en équilibre. C'est assez facile pour le public de capter ces images-là. Puis ça, c'est le risque que j'utilise moi-même assez beaucoup, là, c'est d'avoir directement le public en haleine avec moi. Mais il y a aussi tout le risque qui va être personnel, ou est-ce que le risque va pas être nécessairement perceptible des personnes qui le regardent. Par exemple, de parler en public, de parler pendant une performance, ben ça peut représenter un plus grand risque dans mon cas. Je suis vraiment intéressée par cette pratique-là du risque, de comprendre que tout le monde a sa manière différente de rentrer dans le monde, puis de le nommer comme ça, comme un effort commun, de prendre des risques ensemble, de voir la diversité, la pluralité de la thématique.
Ce qui est un risque pour moi n'est pas nécessairement pour toi, et inversement, et c'est sûr que ça vient parler de nos propres frontières, nos propres limites avec comment on se présente au monde et qu'est-ce qu'on va performer. Je comprends bien qu'elle est très protéiforme, finalement, cette notion de risque. Tu interviens souvent dans des terrains vagues depuis le début de ta pratique en performance. Pour toi, c'est un symbole d'insubordination, mais de champ des possibles aussi. C'est vrai que ces espaces liminaux, ils ont quelque chose de spécial. À la fois, c'est des endroits où il y a quelque chose qui a pris fin et où on peut éventuellement rebâtir, reconstruire quelque chose. Qu'est-ce qui te plaît dans les terrains vagues? Comment ça a commencé? Pourquoi ils sont porteurs pour toi?
Parce qu'ils sont non définis. C'est des espaces qui sont justement en suspens. Oui, en effet, il y a toute l'histoire d'avant, de la manière qu'ils s'étaient occupés. C'est porteur de beaucoup de vécu, mais aussi ça va vers l'avant, tout ce qui est à venir, qu'on ne sait pas encore. On s'insère dans ce creux-là de l'histoire où est-ce que on va aller faire des performances, puis on va aller redesigner les espaces en laissant pas de traces, mais en inscrivant notre présence, une présence de corps, de rassemblement dans ces lieux-là, où est-ce qu'on va le faire vivre, puis le faire vivre avec des présences plus discordantes, mais des présences surtout qui seront pas limitées. Par exemple, versus dans des parcs, où est-ce que dans des parcs, il y a des chemins pour se promener, il y a des places pour s'asseoir, des tables où manger. Les terrains vagues, ben eux, sont tous à imaginer. Donc, on n'a pas de limite pour notre créativité. Puis c'est un projet que j'ai fondé en 2016 qui s'appelle les auto-workshops avec des amis. On se rassemblait à chaque semaine un terrain vague sur l'avenue du parc Coin de Van Horn. Puis c'est un grand atelier à ciel ouvert parce qu'on n'avait pas de limite. Puis aussi, ce qui est intéressant des terrains vagues, c'est qu'ils ne sont pas exactement occupés, ces lieux-là. Donc, ça fait en sorte qu'on a le champ libre. C'est nous qui l'occupons à ce moment-là. Mais ça reste visible de la rue, donc ça reste perceptible des personnes, des passants, passantes qui vont nous voir, qui vont avoir ces images-là imprégnées dans leur imaginaire, qui en vont repasser à côté de ces terrains vagues-là, ben vont se remémorer ces images-là qu'on va avoir formées. Parfois, venez à nous, parfois on avait des interactions avec elle, puis c'est super intéressant parce que là, finalement, on faisait grandir notre image, notre imaginaire de manière éphémère. Donc, le terrain vague, c'est une appellation qui est transposable à différents lieux. C'est pas nécessairement des terrains urbains, un terrain vague. Des terrains vagues peuvent aussi bien être dans un raccoin d'un bâtiment ou peuvent aussi être par rapport à un papier, par rapport à une feuille blanche ou à une feuille qui est chiffonnée. C'est vraiment une compréhension poétique. Aussi, j'ai ouvert ma compréhension de ce que peut représenter un terrain vague.
J'y vois beaucoup aussi en parallèle avec la performance en tant que discipline, qui elle aussi est éphémère. C'est rarement une œuvre, sauf si on la filme, qui va perdurer. Un terrain vague, on ne sait pas qu'est-ce qui va se bâtir dessus demain. Donc, il y a comme aussi cette furtivité qui, je trouve, fait une belle convergence.
J'aime beaucoup cette idée-là. Merci. C'est vrai que la performance en soi est un terrain vague. Finalement, on a toute notre construction, on arrive avec tous nos outils puis toutes nos idées, mais on arrive finalement au moment présent où est-ce que c'est tout indéfini, puis c'est à construire sur le champ avec les éléments qui sont là, les bouts d'architecture, les personnes, les objets, les attitudes, les odeurs, les sons. Chaque moment performatif est un terrain vague en soi. J'aime bien cette idée-là.
Ton film Acronie, qui est présenté dans le cadre du FIFA expérimental le 15 mars à Concordia, on peut vraiment y voir à la fois une corrélation de ton intérêt pour le risque, le moment présent et donc les terrains vagues, toute l'histoire qu'ils portent en eux, mais toutes les possibilités aussi qu'ils nous promettent pour l'avenir.
Le film Acronie a été tourné dans la Cité des Hospitalières à Montréal, qui est vide, pratiquement toute vide depuis quelques années. C'est un bâtiment qui a été pris en charge par le groupe Entremise, qui reprennent des bâtiments qui sont dans un moment d'entre-deux, en attente de requalification, où est-ce qu'ils vont donner accès à des artistes, à des jeunes entrepreneurs ou à différents projets pour se développer en attendant la vente ou la requalification de ces endroits-là. Donc, ce grand bâtiment-là, j'y avais accès avec toute l'histoire entre ses murs, mais alors que c'était vide, mais je sentais dans ce bâtiment-là, quand je me promenais, la rémanence des passages, des vies qu'il y avait eu avant moi. Les murs sont vibrent d'une histoire très dense. C'était assez impressionnant. C'était comme un grand terrain vague pour moi, où est-ce que j'arrivais avec ma caméra puis avec mon trépied seul dans ce bâtiment-là. Je me promenais, j'allais composer avec les architectures qui restaient, avec les objets que je trouvais un petit peu par-ci par-là, mais c'était pratiquement tout vide. J'y allais des fois à la fin de la nuit pour aller filmer l'aube, aller voir les pièces s'illuminer tranquillement avec la clarté qui rentrait tranquillement dans le bâtiment. Où j'y allais en plein jour, c'est très lumineux comme endroit. Puis je suis allée introduire des gestes performatifs. Ça a été un 5 jours très, très dense. Ça a été un 5 jours vraiment spontané que j'avais pas vu venir. J'avais pas aucune planification. Pour aller faire ces images-là, je me suis sentie dans une concentration extrême, je dirais. Comme si j'ai été traversée par une histoire. J'ai été traversée par des intentions que j'avais pas le temps de réfléchir. À mes actions, à mes images, à mes scènes, que j'avais la caméra qui était posée sur mon trépied, puis je faisais des images, je faisais des petites performances, puis je suis sortie de là 5 jours avec 350 fichiers de films. C'était vraiment le feu roulant. C'était très, très tendu aussi, je dirais. J'avais pas accès à tout le bâtiment. En fait, c'est que j'avais pas le droit de me promener dans tout le bâtiment, mais j'ai pris certaines libertés pour me promener sans savoir nécessairement sur quoi j'allais tomber. Puis, par exemple, cette fois-là, où est-ce que je suis tombée sur dans le sous-sol, où est-ce qu'il y a toutes les pierres tombales des hospitalières. Puis je suis rentrée là, puis j'étais vraiment fascinée, intriguée, mais aussi apeurée. J'étais seule dans tout le grand bâtiment. Mais là, ce matin-là, c'était un dimanche, puis. Je suis arrivée face à face avec une femme, une vieille femme qui était réelle. Puis là, je me demandais si c'était pas un fantôme, si j'hallucinais pas après toutes ces 5 journées-là de tournage en solitude. Là, j'arrivais face à cette femme-là qui était venue pour se recueillir finalement auprès de des sœurs. J'ai réussi à capter beaucoup d'images. Quand je suis arrivée dans la salle de montage, c'était très chargé, c'était très tendu. J'avais une drôle de relation avec ces images-là. J'étais gênée, on dirait, de voir ces images-là. Puis, je les ai lancées dans le monde. Je les ai présentées. Puis, finalement, il y a eu une super réception. Puis, j'ai réussi à me baisser les épaules puis à les regarder mieux. J'ai travaillé aussi dans ce film-là avec le musicien Johann Schlager, qui a fait la bande sonore. une musique au piano organe. Le piano organe, finalement, c'est un son plus d'orgue qui rappelait tout le caractère religieux de l'espace aussi, des hospitalières. Donc, il y a vraiment, la musique est très présente, est très forte, puis est très chargée elle aussi, puis ça informe beaucoup les images qu'on voit. Mais les images, dans ce cas-ci, sont aussi très abstraites, finalement, pour revenir au début de la conversation, de se faire confiance, quand on est témoin d'une performance, mais de se faire confiance dans ses propres associations. Je suis allée en pleine expérimentation, en pleine ouverture de qu'est-ce que je croisais, de quel flash que j'avais, comment je pouvais activer les espaces, répondre, dialoguer avec les hospitalières. Avec toute l'histoire qu'il y avait avant, mais tout mon moment présent, moi, mon corps de performeuse qui était là à ce moment-là. Acronie, c'est un court-métrage de 4 minutes. Acronie, ça veut dire qui se situe en dehors du temps, qui n'a pas de temporalité. Donc, c'était vraiment ça mon rapport au temps qui était non défini. Pour faire le lien avec les terrains vagues, justement, pour revenir à ça, ça a été une expérience similaire à quand je m'inscris dans les terrains vagues.
On a parlé beaucoup d'éphémère, du fait de vivre l'instant présent, d'accepter la spontanéité. C'est sûr que là, quand on fait un film, quand on fait un tournage, il y a le support vidéo qui vient un petit peu immortaliser, peut-être pas l'entièreté, mais un échantillon de l'atmosphère, des émotions puis des intentions qui ont été performées. Comment est-ce que la vidéo elle vient s'arrimer à la performance? Puis selon toi, c'est quoi l'intérêt de garder une trace de tout ça?
Je développe une pratique de la vidéo depuis récemment. C'est incroyable l'attrait que j'ai pour ce médium-là tout à coup. Là, c'est vraiment un moyen qui m'intéresse de plus en plus parce que la manière que je peux faire dialoguer les images que je crée avec le public sont très différentes. Ou est-ce que je peux aller à tout moment dans différents lieux? J'ai pas besoin de réfléchir à la manière pour accommoder mes publics. Par exemple, cet été, je suis allée dans un bâtiment abandonné. J'aurais pas pu inviter un public là-bas. Je peux ramener ces images-là. Puis ça me fascine justement de voir toute l'ouverture des potentiels que ça me donne. J'ai une pratique de la peinture, comme je disais en début d'entrevue. Ce qui m'intéresse aussi, c'est d'isoler certaines parties. Par la peinture, je peux amplifier en exagérant les couleurs, en redesignant, par exemple, les espaces avec mes lignes, puis faire des choix de ce qui est montré. Je me retrouve un peu cette même capacité-là avec la caméra vidéo, où est-ce que je vais isoler différents aspects de la scène. Dans la chronie, il n'y a pas souvent mon visage, justement, qui est montré. Puis ce qui m'intéresse, c'est le corps, la tension du corps avec l'architecture, le mouvement, les traces des reliques religieuses, par exemple, qui ont été arrachées des murs. La caméra va me permettre de capter ça, ces détails-là. Dans le cas d'Acronie, j'étais seule, donc c'est très différent de qu'est-ce qu'on parle de ma pratique du rassemblement. Ça me permet de pousser mon idée différemment, puis de montrer vraiment, de composer comme une peinture, finalement. C'est vraiment dans un rapport très visuel.
Vous venez d'écouter Sous la fibre, un podcast créé et réalisé par Claire-Marine Béat. Les musiques originales sont signées Juliette Béat et Yvan Vindray. Les musiques additionnelles sont toutes sous licence libre de droit. Les détails se trouvent dans la description de l'épisode. Un grand merci aux artistes pour leur partage et leur confiance. Pour m'aider à faire rayonner Sous la fibre, n'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, ainsi qu'à vous abonner à l'infolettre qui vous offre plus de contenu sur l'art visuel et la créativité, en plus d'avoir un accès aux coulisses du podcast. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Un lien se trouve dans la description de l'épisode. Ah, puis mettez une bonne note au podcast sur les plateformes d'écoute, c'est toujours apprécié. Merci, à bientôt.
Thank you.